Salut à vous, chers auditeurs. Voici l'émission Coup de tête qui va pouvoir commencer. Aujourd'hui, je reçois Eric. Salut à toi, Eric.
Salut à toutes et à tous.
Et Olivier. Salut à toi, Olivier.
Salut, Marco. Merci de m'inviter.
Émission Coup de tête, l'émission Rock'n'Foot qui analyse et décortique l'actualité des Verts en partenariat avec le site Envers et Contre Tous sur le net. Au cours de 50 minutes d'émission, on va bien sûr revenir sur le match nul à tout point de vue entre Saint-Étienne et le TFC samedi après-midi pour la 36e journée de championnat. On va vous passer des morceaux musicaux d'actualité et puis un peu plus anciens. On va parler un petit peu d'une petite page Haute-Loire assez courte. On va revenir avec les questions. Et puis on va terminer avec nos coups de cœur et coups de tête. Voilà, l'émission va pouvoir commencer. Bien sûr, on commence par la semaine verte.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici la semaine verte.
Olivier.
Ouais, en avant pour cette semaine verte, qu'est-ce qu'il ne fallait pas rater sur la planète verte cette semaine? Lundi, on a appris que la blessure d'Oussama Tanane était plus grave que prévu, hein. Vous vous rappelez, il est sorti la semaine dernière, il a même été plâtré et donc clap de fin pour lui cette saison. On ne le reverra plus sur un terrain en vert, en tout cas, jusqu'à la fin de cette saison 2015-2016. Et puis en milieu de semaine, c'était malheureusement prévisible, on a appris qu'il n'y aurait pas de supporters stéphanois à Nice. Eric, hein, va falloir que tu prennes tes dispositions. Pas de supporters stéphanois, la notification de la préfecture est tombée en milieu de semaine. Et puis pas de stéphanois non plus, vous savez où? Eh bien au trophée UNFP, hein, qui récompense chaque année les meilleurs joueurs de cette Ligue 1. Eh bien il y aura pas de stéphanois cette année. Au regard du match dont on va parler, ben je pense qu'on aurait pu au moins en mettre un en la personne de Stéphane Ruffier.
Évidemment.
Et puis mercredi, enfin une bonne nouvelle pour l'AS Saint-Etienne. Le LOSC qui disputait un match en retard, hein, à Angers, eh bien les hommes de Frédéric Antonetti se sont contentés d'un match nul face à Angers. Donc ça arrange plutôt l'AS Saint-Etienne, mais on verra que Lille s'est bien rattrapé ce week-end. Et puis la réserve de l'AS Saint-Etienne cette fois-ci, il faut qu'on parle de cette CFA 2 puisqu'il y a une réforme du championnat de France. Hein. Je sais pas si c'est l'arrivée du nouveau président de la Ligue. En tout cas, il n'y aura plus de championnat de CFA 2 et on peut dire que finalement l'équipe réserve de l'AS Saint-Etienne accède à cette CFA l'année prochaine où il y aura décidément beaucoup de poules. Je pense que ça va être chargé cette division. Et puis vous vous rappelez, il y a quelques semaines, la mairie de Saint-Étienne s'était retrouvée avec des milliers de posters du club sur les bras suite au refus des écoles publiques de récupérer ces posters. Hein. Ils râlaient contre une baisse des subventions qui avait été au profit des écoles privées. Eh bien, le maire l'avait promis, il a reçu tous ceux qui voulaient un poster. Tu y étais, Eric, donc peut-être tu peux nous faire un petit débriefing. Il y avait du monde à l'hôtel de ville mercredi.
Il y avait un bon millier de supporters stéphanois qui ont pris d'assaut l'hôtel de ville, donc qui ont répondu à l'invitation de Gaël Perdriot, donc effectivement qui sont venus se faire dédicacer un poster par quasiment l'ensemble de l'effectif qui était réuni. Donc voilà, il y a un petit peu de cohue au départ, mais beaucoup de monde, comme quoi la ferveur stéphanoise est quand même assez incroyable. On a pu en avoir un exemple de cet engouement-là ce mercredi.
Ouais, c'était ce que je voulais t'entendre dire, hein. Bel engouement, hein. Ils ont été victimes de leur succès, belle opération de com du maire, même si, on l'avait dit, hein, on comprend tout à fait la réaction des écoles et des instituteurs. On passe tout de suite maintenant à cette affaire, hein, vendredi, la surprise, hein, c'est pour ceux qui lisent régulièrement le journal L'Équipe, hein. Eh bien surprise puisque on s'est retrouvé projeté longtemps en arrière avec à nouveau une affaire on va dire financière, médiatico-financière, qui rappelle de mauvais souvenirs. Et là encore, Eric, tu as étudié un petit peu le dossier. Est-ce que, en quelques mots, tu peux rappeler à nos auditeurs ce qui s'est passé, ce que soupçonne Bernard Lyons, le journaliste de L'Équipe?
Ouais, donc l'affaire Carvalho a pollué là, l'avant-match d'ASS Toulouse. Donc c'est une histoire assez complexe que je vais essayer de vous résumer. Donc tout est parti d'un article de L'Équipe qui a révélé un différend opposant Roland Romeyer à Adao Carvalho, qui est le troisième actionnaire de l'ASS, un industriel local auquel il s'était associé en 2004. À partir de 2007, Carvalho a eu des ennuis judiciaires. Ses parts, du coup, ont été gelées. Et Romeyer en a profité dans l'intervalle pour prendre seule la direction du club en 2010. Ses ennuis judiciaires étant désormais derrière lui, Carvalho a obtenu le dégel de ses parts. Et il veut désormais obliger Romeyer à modifier les statuts du club pour y faire apparaître son nom, ce qui lui permettrait de nommer ses propres représentants au conseil de surveillance. Et par ricochet, qui mettrait Romeyer en minorité. D'après Carvalho, Romeyer profite de ses parts depuis 9 ans, alors qu'il ne détient que 22% du club. Romeyer ayant refusé de modifier les statuts, Carvalho a saisi le tribunal de commerce de Saint-Etienne en référé. Romeyer a contre-attaqué immédiatement en assignant à son tour Carvalho à comparaître. Carvalho, qui souhaite récupérer donc la jouissance de ses parts pour mieux les revendre, il a trouvé un acheteur, une vieille connaissance de l'ASS en la personne de Laurent Rousset, épaulé par un dénommé Jacques Poli.
Celui qui a l'argent, hein, c'est Poli, hein, c'est pas Rousset, je crois.
C'est ça, qui est Poli, donc qui a, en 2009 déjà avait proposé d'injecter 100 millions dans le club en 5 ans grâce à un fonds de pension chinois. Ce même Poli qui en 1999 avait été condamné à 3 ans de prison avec sursis pour une histoire de sponsoring au FC Rouen. Donc il y a un protocole de vente des parts de Carvalho au ticket Rousset-Poli qui a été signé en octobre dernier. Et la session devait être conclue au 31 mars, mais finalement l'affaire a capoté. Donc là, il y a plusieurs voix qui se sont élevées cette semaine au sein de l'ASS pour apporter un soutien sans faille à Roland Romeyer. Celle de Michel Saez, qui est le président de l'association AS Saint-Etienne, et celle de Bernard Caillasso, président du conseil de surveillance du club. Caillasso qui s'est déclaré consterné qu'on puisse évoquer un possible départ forcé de Romeyer. D'après lui, celui-ci ne peut pas intervenir pour 3 raisons d'ordre juridique, professionnel et personnel. Caillasso a rappelé que seul lui était habilité à désigner le président du directoire. On peut comme lui s'interroger sur les réelles intentions de cet article polémique signé Bernard Lyons qui, faut-il le rappeler, avait déjà été à l'origine il y a quelque temps de la fameuse liste noire. Et on peut également s'étonner qu'un tel article visant à ébranler voire déstabiliser l'actionnariat soit publié la veille d'un match capital.
Ouais, et puis je pense qu'on en parlera dans les coups de tête. En tout cas, j'en dirai un petit mot. Bon, bah, pour préparer le match important face à leurs homologues toulousains, eh bien il y a mieux quand même, hein. C'est quand même, il y avait une meilleure ambiance à chercher. En tout cas, Galtier devait faire face à quelques absences, hein, on en a parlé déjà, hein. Donc Tanane, et puis également en attaque, on l'avait dit, Baebek. Donc voilà la composition de l'équipe: Ruffier, Théophile Catherine et Assoué Koto sur les côtés en défense, Bayal Sal et Alain et Loïc Perrin dans l'axe, au milieu de terrain, un milieu de terrain entre guillemets vieillissant, Lemoine, Clément et Coad. Et puis devant, c'était un petit peu la surprise et l'inconnu, puisque Galtier a titularisé le jeune Kevin Malcuit, qui d'habitude évolue plutôt en défense. Nolan Roux dans l'axe, voilà, pour marquer des buts, hein, comme il sait le faire. Il a été maintenu dans l'axe. Et puis Valentin Essérique sur un autre côté. Voilà pour la composition d'équipe. Et alors, si on s'était ennuyé ferme lors des autres rencontres, eh bien cette fois-ci, avec des Toulousains morts de faim, on s'est pas ennuyé, et dès la première minute de cette rencontre.
Exactement, on était plus de 30 000 spectateurs assistés à cette rencontre samedi à 17h à Geoffroy Guichard. Il ne fallait pas arriver en retard, puisque dès les premières secondes, la 25e exactement, une tête de Braithwaite alerte Ruffier, hein, un joli coup de tête comme on les aime de la part du Norvégien, et il faut la vigilance, toute la vigilance de Ruffier dans cette première minute pour repousser la première attaque du TFC. Et le TFC va pas en rester là, puisque 2 minutes plus tard, Ruffier cette fois sort du pied un tir du même Norvégien. Oui, Braithwaite c'était ouvert les portes du but en n'étant plus malin que la charnière centrale stéphanoise, Perrin et Salle. Et il faut encore un bel arrêt de la part de notre portier stéphanois. Eh ben, Ruffier, une troisième fois, suite à un penalty que Monsieur Jaffredo va donner au TFC suite à une faute de Clément sur je sais plus quel joueur. Sur Brestouette. C'est Ben Yedder qui va s'en charger. Ben Yedder cadre son penalty. Il le tire à la droite de Ruffier et Ruffier tant parti du bon côté. C'est le troisième arrêt décisif au cours des cinq premières minutes pour Ruffier. Le Geoffroy Guichard exulte suite au troisième arrêt du portier stéphanois. Et puis, ben, jamais 403, puisque Ruffier sort à nouveau en corner, une frappe de Ben Yedder à la sixième minute, et il faut attendre le quart d'heure passé pour avoir la première offensive stéphanoise suite à un coup franc de Coad. Ça passe devant le but de Lafont, le portier du TFC, mais c'est relativement timide du côté stéphanois. Il y a beaucoup trop d'approximations et surtout beaucoup de déchets dans les transmissions, déchets techniques. On peut signaler une frappe d'Assoué Koto qui est complètement dévissée à la 20e minute, mais on va surtout retenir à la 23e minute un coup franc toulousain ou encore Ruffier s'illustre puisqu'il sauve sur sa ligne à ce moment-là. Les Toulousains vont également marqué deux fois des buts signalés hors jeu, hein, le deuxième étant vraiment limite à la 24e minute et à la 31e minute. Ruffier qui s'illustre une nouvelle fois suite à un bon sauvetage. Il la détourne en corner alors que c'était une très belle contre-attaque, peut-être la plus belle contre-attaque de la première mi-temps des Toulousains. Ils ont baladé les Verts sur le côté droit. Et il faut encore un bon Ruffier avec la main ferme qui détourne ça. On peut souligner le tir, la tête croisée de Roux suite à un super service de Coad, hein, Coad qui a été servi auparavant par Théophile Catherine sur le côté droit, et Roux en fin de compte décroise un petit peu sa tête, mais c'est pas cadré et ça traîne au milieu de juste devant la ligne de but du TFC. À 39e minute, Monsieur Jaffredo aurait pu siffler un penalty pour les Stéphanois suite à un dégagement toujours de notre joueur du jour, Ruffier. C'est Roux qui prend le dessus sur le numéro, sur l'arrière central du TFC. Et Roux tombe dans la surface, un petit peu retenu par ce stopper toulousain. Mais il n'en est rien puisque Monsieur Jaffredo laisse le jeu finir. En tout cas, une première mi-temps largement dominée par les Toulousains. Et c'est par miracle, il s'appelle Ruffier, que le score reste nul et vierge à la mi-temps.
Ok, et une première mi-temps où franchement, tout le monde est content d'arriver avec le score de 0-0. Pour moi, c'est un miracle. Hein. Il faut changer deux, trois petites choses pour Galtier. Même si on a confiance, les Verts finissent fort. Il va changer assez rapidement des choses, hein, Galtier, Eric.
Ah non, c'est sûr, hein, 0-0 à la pause, comme toujours, hein, on serait tenté de dire. Une première période, comme a dit Marco, dominée de la tête et des épaules par une équipe toulousaine, certes relégable, mais qui pratique un jeu très plaisant autour d'un Martin Brest-Ouest particulièrement en jambes. Donc c'est effectivement un miracle d'atteindre la pause sur ce score de parité, un miracle qu'on doit en grande partie à Ruffier, dont la cage a été bombardée et qui a réussi à détourner le penalty de Ben Yedder. Donc les choses qui vont changer, ça va être l'entrée rapide en jeu de Romain Mouma en particulier, Notons qu'en première mi-temps, Bayal est sorti sur blessure, remplacé par Pogba. La seconde période donc, est nettement moins rythmée. Les Toulousains sont les premiers à se mettre en évidence. À la 50e minute, Dido déborde côté gauche et centre en retrait pour Ben Yedder. La balle file jusqu'à Regatin qui frappe à angle fermé. Ruffier repousse du pied. Réaction stéphanoise à la 62e minute sur un corner d'Essérick. Lafont hésite à sortir, mais la tête de Coad au second poteau passe au-dessus. À la 70e, les petits gabarits toulousains Regatin et Ben Yedder combinent bien. Bressouet s'est lancé en profondeur, mais Ruffier sort au pied et éloigne le danger. Réplique immédiate des Verts dans la minute suivante. Théophile Catherine hérite du ballon côté droit. Il centre pour Essérick, dont la reprise passe à côté. À la 76e, Soderlund, qui vient de remplacer Coad, obtient un coup franc bien placé. Amouma le tire dans le mur, le TFC se dégage, Somalia s'empare de la balle et part en contre côté droit. Il se fait littéralement découper par Loïc Perrin qui se fait expulser sur le champ. Gros coup dur pour les Verts qui devront se passer à Nice de leur capitaine, expulsé pour la première fois de sa carrière. Réduit à 10, les Stéphanois ne parviendront pas, comme lors des rencontres précédentes, à inscrire le but salvateur dans le dernier quart d'heure. Ils se procurent une toute dernière occasion par leur meilleur buteur Nolan Roux qui est à la réception d'un long ballon d'Assou et Koto, mais dont la reprise est contrée. C'en est fini sur ce score nul et vierge de 0-0, sixième match sans prendre de but, mais fin de la belle série de victoires consécutives. Même si on sait qu'il n'est pas simple de gagner deux matchs de suite à domicile, ce résultat constitue une grosse contre-performance. Ce nul est toutefois un moindre mal vu la domination toulousaine en première période. Impossible de toute façon de remporter une rencontre lorsqu'en 90 minutes, comme ça s'est produit lors de cette rencontre-là, on ne cadre pas le moindre tir. Nous n'avons finalement pris qu'un point sur 6 cette saison face à cette équipe toulousaine vaillante qui, au vu de ce qu'elle a démontré à Geoffroy Guichard, mériterait de conserver sa place en Ligue 1. Les Toulousains qui sont devenus notre bête noire, on reste sur 8 matchs de suite sans succès face à eux et il n'y a que finalement face à Paris que les Verts affichent un plus faible taux de victoire à domicile en Ligue 1.
Tout à fait. Zéro tir cadré, j'ai envie de dire que les Verts ont été très très mauvais, voire nul à chier. Ça sera les VRP.
Oh, j'ai marché dans la merde. Ce matin, en me réveillant, j'avais les pieds tout bizarres, ça sentait mauvais. Et je me suis réveillé avant le réveil tellement ça puait. En fait, hier, j'avais marché dans la crotte. Alors je mets les pieds dans mes petites mules, et puis je me dirige vers la salle de bain. Et puis juste à ce moment-là, je marche dans la pâtée du chien. J'arrive dans la salle de bain, j'ouvre les robinets, plus d'eau. Alors tout ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre mes petites chaussettes en acrylique. Je mets mes chaussures, je lasse les lacets bien fort, et en serrant les doigts de pied, il y a tout qui remonte. Je me dirige à ce moment-là vers la porte d'entrée. Je sors, je ferme ma clé, j'appelle l'ascenseur, et qui est-ce que je vois apparaître par la vitre? La concierge.
Je suis une erreur de la nature, je suis une erreur de la nature. Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Nul, nul, nul à chier. Je suis nul à chier. À chier, à chier. Nul, nul, nul à chier. Je suis nul à chier. À chier.
Elle ouvre la porte et puis elle dit, ça sent pas bon. Je la regarde tristement. Elle me dit, de toute façon, y a pas de courrier pour vous, y en a jamais. Alors je descends par les escaliers pour pas la gêner. Et puis tout d'un coup, je sens une présence. Elle me poursuit, la conne, en riant, tu pues, tu pues. Et moi, je me retrouve dans la rue. Dehors, les gens me regardent bizarrement. Dans ma poche, ma mère m'a toujours mis un revolver. Elle m'a dit un jour, t'en auras sûrement besoin. Je crois que le jour est arrivé. Je sors le revolver, je me le pose sur la tempe. Et puis, il sent vraiment mauvais. Qu'est-ce que je fais? Je tire. Finalement, je pars heureux. Je marche, et tout autour de moi devient mou et marron. Et plus ça va, et plus je marche dans la merde. Et plus je me sens content, parce que j'en ai plus rien à foutre, ça pue. Et je suis content comme ça. Me demandez pas ce que je fais au milieu de ces gros trucs marrons. Je suis content, enfin je crois.
Je suis une erreur de la nature, je suis une erreur de la nature. Vous
inquiétez pas, j'ai l'habitude. Vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Nul, nul, nul à chier. Je suis nul à chier. À chier, à chier, à chier. Nul, nul, nul à chier. Je suis nul à chier. À chier.
Voilà les VRP, nul à chier. Cela ne s'adresse pas bien sûr à notre portier Stéphane Ruffier qui a été lui exceptionnel, mais sinon les autres, bah ouais, ils ont vraiment pas été bons du tout, et même au coach qui a pas été bon. Hein,
bah, on en alors là, un. Ouais, justement, là tu me tends une perche énorme, messieurs, on va débriefer ce match en parlant de trois hommes, Galtier, Malcuit et Ruffier. Pour commencer, j'ai envie de vous entendre sur voilà, sur leur responsabilité, soit dans de le côté négatif de ce match sans aucun tir cadré, de ce match où les Verts n'ont jamais vraiment pu exister, ou responsable aussi de match nul hein, qui préserve nos chances de rester quatrième, qui nous laisse dans la course. Et évidemment, il sera question de Ruffier dans un second temps. Donc d'abord, est-ce que Christophe Galtier est responsable de ce qu'on a vu cet après-midi du côté stéphanois?
Avec son schéma tactique, oui. En alignant un Malcuit qui s'est perdu pendant 70 minutes hein, sur le terrain. Hein. Il ne savait pas s'il fallait défendre, s'il fallait attaquer. Techniquement, il a tout loupé. Donc le mettre d'entrée comme ça à un poste en 3, on sait pas si c'est du 3-5-2, si c'est du 5-3-2, on le sait vraiment pas. Quad et Esric qui n'ont rien fait pendant la partie et qui ont absolument rien apporté, alors que on pointait depuis un certain temps franchement le milieu, autant en défense on prend pas de but, donc c'est plutôt bien. Donc s'il y avait une chose à changer, c'était au milieu. Moi, c'est toujours le fait de mettre Cornier complètement à part du groupe. Là, au moins qu'il essaye avec un milieu qui soit créateur. Alors il a essayé ces derniers temps, il a laissé Esric sur le banc. Là, la moindre des choses, c'était mettre au moins Cornier sur le banc et puis le faire entrer, parce que Esric d'entrée, on a tout de suite vu qu'il n'y était pas. Hein. Il n'arrivait même pas à passer un seul joueur. Donc, c'est problématique. Donc, devant, il y avait l'absence de Tanane et Monet Paquet. On ne peut pas lui en vouloir à Galtier là-dessus. Par contre, sur le milieu, là, je suis vraiment pas d'accord. Et sur son schéma avec Malcuit qui sert à rien, tout de suite, on a commencé à jouer à 10 contre 11.
Est-ce que ça t'a surpris, toi, Eric, de voir Kevin Malcuit positionné attaquant?
Ouais, enfin, attaquant, je suis pas vraiment d'accord. Non, je pense effectivement c'est un 3-5-2. Sauf que, Malcuit, donc, il a l'habitude de jouer un système-là. Mais du coup, le pendant gauche de Malcuit dans ce système-là, ça aurait dû être Tabanou, qui lui est beaucoup plus offensif que Kassou et Koto. Donc, c'était un 3-5-2, je pense, revisité, qui effectivement n'a pas fonctionné.
Moi, je vous assure que il y avait bien 4 défenseurs comme d'habitude. Et c'est plutôt ce qui vous a peut-être perturbé, c'est plutôt que Kevin Malcuit savait vraiment pas où se foutre, mais il était je sais pas les détails, j'ai pas assisté à la causerie, mais peu ou prou il occupait le poste qu'occupe Kevin Monet-Paquet d'habitude hein. Mais exactement hein.
Pour moi il y avait plus 3 défenseurs avec Perrin, Bayal et Théophile, et puis à droite Malcuit, à gauche c'est Koto.
Non mais
c'est un système qui peut changer.
Koto, tu l'as vu attaquer toi, Koto?
Bah non, c'est ça le problème. Dans ce système là 3-5-2, système qui convient à Tabanou mais pas à ce Koto.
Malcuit, franchement, il savait pas du tout. Soit il a vu trop de vidéos de Monet Paquet ces derniers matchs, soit vraiment c'est vraiment pas son poste. Puis c'est vrai qu'il est jeune, il a pas du tout de connaissances tactiques suffisamment
Tu sais que Galtier veut reconvertir Monet Paquet arrière droit.
Ouais, hein, ouais, voilà, mais il a fait l'inverse avec. Il faudrait qu'il arrête avec ses reconversions parce que c'est bientôt.
Et après, il a vu que ça fonctionnait pas. Du coup, ouais. dès la 52e, il a changé de fusil d'épaule. Il a fait sortir Malcuit, entrer à Mouma. Donc le système de jeu a changé, mais ça n'a pas mieux fonctionné.
Tu as un scénario de match qui est vraiment intéressant. Une heure avant, tu apprends la nouvelle que Nice a perdu à Nantes. Il reste 3 matchs, donc 9 points. Tu dois tout faire pour emporter les 3 points. Tu as une équipe qui vient à la maison, on sait c'est une équipe de Toulouse qui joue sa survie dans ce championnat de Ligue 1. Donc, elle a une bonne attaque. Donc, la moindre des choses, c'est de donner du répondant. Putain, mais mets 4 attaquants. Tu mets 4 attaquants.
C'est ce qu'il a fait en fin de match.
T'assistes à du jeu d'entrer dans un stade où il y a 30 000 personnes qui se déplacent pour voir du spectacle. Putain, c'est là que tu dois voir du spectacle. Ben non.
Alors après.
Ben non.
Après, est-ce que à 2 journées de la fin, il doit modifier, parce qu'on a vu que Malcuit, par exemple, ça le perturbait, hein, le changement. Donc, est-ce que c'est à 3 journées de la fin, alors que c'est en train de lui réussir, ce type de schéma tactique, là, cet attentisme, j'ai envie de dire, est-ce que c'est le moment de changer? C'est ça aussi le problème. Alors bon, c'est bien beau de dire, c'est pas très heureux, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire à la place? On a vu en fin de match un Söderlund rentrer, être plutôt pesé sur cette défense. Moi, j'ai trouvé la rentrée était pas mal. C'était peut-être l'autre piste à étudier, hein, avec un Nolan Roux excentré, avec un Söderlund qui pèse sur la défense, qui peut peut-être mettre plus d'impact. Et puis il y a quelqu'un qu'on voit pas souvent, c'est Mopé aussi, qui chaque fois qu'il rentre, il marque, mais bon, on l'a pas vu. On parle un petit peu de Ruffier parce que quand on est un peu obligé, hein, on pointe du doigt un peu son manque de sympathie, hein. C'est vrai qu'avec les supporters, il est très froid, mais alors là, pour le coup, moi, à la mi-temps, on s'est dit on va lui faire une statue à Ruffy, hein, parce que je crois qu'en quelques minutes, il sort 4 arrêts, dont un pénalty. Le pénalty, en plus, il est pas si mal tiré que ça.
Il est cadré, il est
à terre, il est sur un côté. Donc, on a un Ruffier qui nous évite d'aller à la mi-temps avec 3 ou 4-0 dans la musette.
Mais je vais plus loin, on a un Ruffier qui nous permet d'être quatrième à la 37e journée, 36e journée de championnat. Sans lui, on n'est pas quatrième, on est 10e ou 11e. Hein.
On a un Ruffier de niveau international lors de cette rencontre.
Champions League.
Lors des 5 premières minutes, comme tu l'as dit, 4 arrêts décisifs, c'est incroyable. Hein. Donc c'est le grand bonhomme de cette partie, c'est lui qui sauve les meubles comme souvent cette saison.
Galtier a dit qu'il n'avait jamais vu ça dans sa carrière, un gardien qui réalisait autant d'arrêts.
Il avait fait un très très gros match comme ça l'an passé à Reims, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il avait été énorme.
Ouais. Et puis les pénaltys, ça le connaît, hein. Il nous qualifie assez régulièrement. Hein. À Karabouk aussi, je me rappelle que c'est lui qui nous qualifie en Europa League. Bon, ça date un peu, mais c'est des séances de. Enfin voilà, c'est un exercice où en plus il est très très bon. Voilà pour Stéphane Ruffier. On va passer au flop. Hein. On a parlé de Malcuit, mais est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui dans le schéma de Galtier ont failli un peu?
Milieu de terrain, Esric a été minable. Et en plus, il tire même pas le seul coup franc qu'on lui offre. Le seul coup franc direct, hein, parce que dans les coups de pied arrêtés, il a pas été bon, alors que normalement, il excelle dans ce domaine. Je sais pas si le verbe exceller convient, mais bon, il est pas mal généralement. Et puis, il est surtout très bon dans les coups francs directs, c'est-à-dire à 22, 23 mètres du but. Et au moment où on obtient cette faute-là, c'est Amouma qui le tire. C'est une grosse erreur. C'est à n'y rien comprendre. Et il y a de quoi être mécontent suite à ce match face au TFC qui peuvent s'en vouloir de ne pas avoir engrangé les 3 points. Hein.
Ouais. Eric,
Niveau flop, donc flop principal mal cuit, donc des problèmes de positionnement, des mauvais contrôles en première mi-temps, des dégagements un peu à l'emporte-pièce. Après, je citerai aussi Théophile Catherine, que j'ai trouvé quand même à la peine, je ne l'avais pas trouvé très bon la semaine dernière déjà. Et puis, pour terminer, Essérik, effectivement, des déchets sur coup de pied arrêté. Il a tiré un coup franc dans les nuages vers l'heure de jeu, et puis après, du coup, c'est plus lui qui tirait le coup franc du tout, c'est Coad qui lui a succédé dans cet exercice, et puis le fameux coup franc bien placé, c'est Amouma qui s'en est chargé, et c'est sur le contre de ce coup franc que Perrin est expulsé.
Alors voilà, on en dit un mot, hein, Loïc Perrin, qui se fait expulser, qui certainement, on en discutait hors antenne, qui va du coup rater les deux derniers matchs de la saison, hein, qui sont plus importants, puisqu'il y a Nice et il y a Lille qui se profilent à l'horizon. Donc une défense, on en parlera tout à l'heure, sans Loïc Perrin, mais sur ce pénalty, sur l'action, c'est peut-être le seul contre que les Toulousains ont eu à négocier. Et la seule fois où les Stéphanois sont pas vraiment en place, eh bien Loïc Perrin, moi pour moi, je vais dire mon sentiment, vous allez me dire ce que vous en pensez. Pour moi, il sait que le Toulousain file au but et va marquer. Il se sacrifie. Enfin, voilà, j'adore ce joueur, mais voilà, cette action, elle me conforte en plus dans l'idée qu'il s'est complètement sacrifié pour son club. Il savait qu'il allait prendre un rouge. Il a fait exprès, là, il rate le ballon, mais il sait qu'il faut qu'il prenne soit le ballon, soit le bonhomme.
Ouais, mais ça va vite, hein. Ouais, ça va très, très vite. Et à mon avis, il croit avoir le ballon et puis, peut-être dans les derniers instants, il s'aperçoit qu'il a pas le ballon, il fait faute. Mais je pense pas qu'il y ait autant de réflexion dans sa tête à ce moment-là. Ils vont sur le ballon rapidement. Le Toulousain est plus rapide. Il est en retard et puis il fait faute. Voilà. Mais bon, en plus c'est pas méchant. C'est que ça se passe très vite et voilà, c'est spectaculaire. Mais voilà, c'est pas.
Non, il est mérité quand même ce carton rouge.
Ah oui, tout à fait.
Bah, il est mérité parce qu'il y a une contre-attaque et ça peut donner une action de but pour le TFC. Donc là-dessus, c'est mérité.
Il est tout seul derrière.
Il fait pas mal.
Personne peut le rattraper, le Toulousain.
Il y a Pogba.
Au niveau du banc de touche, c'est vrai, ça se joue en une fraction de seconde.
Sur le côté, je le vois, hein, il a déjà 3-4 mètres d'avance, il est lancé alors que les autres sont.
Pogba est en retrait à ce moment-là encore.
Non, mais je te jure qu'il ne peut pas le rattraper. Hein. Tu regarderas les images, Marco.
Bon, c'est vrai qu'on n'a pas vu les images, hein, donc on se fie à nos impressions au stade.
On est obligé de parler des rencontres qui vont arriver sans Bayal, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, vous l'avez dit, il s'est blessé, sans Perrin. Donc on va passer un deuxième morceau musical, puis on parlera de la rencontre qui arrive et de les gars, je vais vous faire bosser un peu, hein. Qui vous mettez en défense, qui vous mettez en attaque, c'est bien beau de critiquer, mais
Vincent
va falloir se mouiller, hein.
Vincent Pajot.
Allez, trêve de plaisanterie, deuxième morceau, hommage aux Toulousains. Moi, mon Toulousain préféré, c'est Michel Clou, qui a sorti un album il y a 2 semaines de ça. Je vous en ai déjà passé un morceau. Je vous passe le deuxième morceau, qui sera La classe ouvrière s'est enfuie.
Enfants, on a amené des fleurs, ils les ont arrosées. Une fois n'est pas coutume, je n'ai pas pleuré. On s'est recueillis, on a aussi beaucoup parlé. Comment c'était pour moi à leur âge, comment c'était pour vous surtout. Le travail, la famille, les amis, ce que vous m'avez appris, ce qui m'a construit. Vous ne pouvez pas voir ce qu'il se passe ici en ce moment. Votre absence vous en épargne, et j'aime autant. La classe ouvrière s'est enfuie. 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 J'ai rencontré cet homme âgé qui travaille toujours à l'usine. Il m'a dit, tu sais, il reste encore des ouvriers, mais il n'y a plus beaucoup de classes. Tout en haut et en bas, plus aucun sentiment d'appartenance. Cette veille n'est pas économique, elle est humaine.
Michel Clou avec La Classe Ouvrière s'est enfui. Un morceau péchu et engagé, engagé comme son dernier album. Olivier.
Ouais, et ben écoute, on voulait vous parler du prochain match. J'ai réussi à les faire bosser un peu, hein, malgré la fatigue, Marco. Et bien, on va vous donner voilà notre composition qu'on aimerait voir du côté de Nice samedi prochain. Du coup, Eric, toi, tu ferais jouer les Verts. Alors, je rappelle, hein, il y a quand même des contraintes, puisque Bayal ne sera pas là, puisque Perrin ne sera pas là, puisque en attaque, on a aussi des blessés. Donc, qui est-ce que tu ferais jouer pour gêner ces Niçois qui, je le rappelle, nous en ont mis 3 ou 4 à la maison au match aller?
Moi, je dirais pas l'équipe que j'aimerais voir, mais l'équipe que je pense qui va être alignée à...
Ah non, mais l'équipe, oui.
Ah bah oui, d'accord. Je suis connaissant Christophe Galtier, donc je pense que...
Bah, voilà, tu t'es l'équipe... mis dans le cerveau de Christophe Galtier.
Voilà, donc...
Galtier, il est déjà en vacances, donc... Christophe Galtier, ouais, c'est ça le problème.
Pas encore, mais... Donc l'équipe que je pense qui va aligner... Est-ce que Béric sera de retour déjà, messieurs? Ça change tout. J'ai pas le droit de le mettre. Bon, d'accord.
Si, t'as le droit. Voilà. Bah si, il était dans le... Il est pas dans le groupe, mais...
Je vais pas le mettre.
Mais
Batchenet aussi. Je pense qu'il y aura pas beaucoup de changements, donc à l'exception de... forcément de Perrin et de Bayal, donc Ruffy dans les buts, Malcuy à droite, à gauche Assou et Koto, dans l'axe Théophile Catherine associé à Florentin Pogba, milieu de terrain inamovible Clément Lemoine Coad, et devant donc Nolan Roux, à droite Amouma et à gauche Essérik. Donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de changements. J'aimerais un retour de Béric qui permettrait donc de placer Roux à droite et Amouma à gauche. Mais après, je ne vois pas beaucoup de changements. Je ne le vois pas réintégrer des joueurs qui sont pour l'instant écartés, même si j'aimerais le retour de certains.
Ouais, donc moi, ça se joue. Hein. On va déposer ça peut-être sur le Facebook. On fera les comptes la semaine prochaine. Tu vas me donner ton petit papier là. On verra ça. Alors de mon côté, comme on n'a plus pratiquement plus de vrais défenseurs. Eh ben, j'opterai à la place de Galtier pour son fameux 3-5-2, qui est en fait en réalité un 5-3-2, puisque comme défenseur centraux de métier, il reste que Théophile Catherine, Pogba et Assou et Koto. Ben, je les associerai à 3 en défense. Sur les côtés, Tabanou et Malcuy. Hein. Malcuy, je pense que si on veut pas complètement le dégoûter, il faut le refaire jouer tout de suite, sinon le pauvre il va mettre du temps à s'en remettre. Et donc au milieu de terrain, toujours Lemoine, Clément, Coad, mais dans un triangle inversé, Lemoine et Clément étant dans une position un peu plus défensive. Et en attaque, comme il y a deux postes dans ce système là je mettrai Nolan Roux et autour de lui un Nil Mopé, parce qu'il est actif et il va gêner aussi les relances des Stéphanois. Alors il y a une composante dans ce match, c'est que je rappelle, Essérik ne va pas jouer hein, ce match-là parce qu'il est prêté, et que en général, quand ça se produit, eh bien le joueur en question ne joue pas contre le club qu'il l'a prêté. Et c'est vrai pour Paul Bayce, pas réellement, puisque Paul Bayce, ça y est, appartient cette fois-ci à Nice.
Mopé non plus du coup joue pas.
Et Mopé sera gêné sur ce plan-là aussi. Non, Mopé, il est pas seulement prêté, il est stéphanois.
Ouais, mais c'est, je sais pas. Est-ce que tu es sûr de
surprenant de ça ouais. Ce que tu viens de nous dire là,
des fois, il y a des avec des grands yeux.
Ça se produit à chaque journée de championnat, hein, les gars. Vous avez des joueurs qui jouent pas parce qu'ils ont été prêtés.
Ouais, mais il y a des arrangements. Hein. C'est du foot. Hein. Il y a la mafia, donc ils peuvent se débrouiller. Moi, je pense qu'Esric sera aligné. Hein.
Moi aussi.
Mais bon, je sais pas. Mais ça me dérangerait pas puisque moi, je l'avais pas mis dans ma composition. défense centrale, moi, je mets Tabanou et Assou et Koto sur les côtés. Pogba, Catherine dans l'axe. Et je mets Ruffier gardien. Surprenant, non?
Attends, non.
Tu fais jouer une femme, arrière centrale?
Hein?
Catherine,
ouais. Mais Catherine. Je fais revenir Selnaes et Cornier, évidemment. Et je garde Clément. Lemoine, Coad, Essérik, je les mets sur le banc. Et je mets Roux et Mopé et Soderlund qui rentre en deuxième mi-temps à la place de Mopé ou à la place de Roux selon comment ça se passe sur les ailes. et où je sors un Selnes et puis je mets Söderlund entre Norvégiens, il change et je mets avec trois attaquants. Voilà.
Ok, bah on verra tout ça et puis bah c'est intéressant en tout cas d'échanger là-dessus.
Non mais ça sera jamais fait. Non, je sais, mais c'est, hein, ça c'est sûr.
Déjà c'est bien, ça alimente le débat. C'est pour l'année prochaine aussi, ça peut être sympa parce que Selnes, il faudra bien le faire jouer à un moment. Il a coûté 5 millions d'euros. On verra ça. En tout cas, on parle pas de Nice parce que Nice on connaît, hein, même s'ils ont fait un mauvais résultat ce week-end, on connaît la force offensive des Niçois avec un Ben Arfa, un Germain et puis aussi en milieu de terrain assez on va dire athlétique et solide.
En tout cas c'est un match très très important, hein, puisque il y a toujours un certain suspense pour ces places européennes. Là on est quatrième, Nice est juste derrière. Voilà, c'est le cinquième qui reçoit le quatrième. Si le cinquième gagne contre le quatrième, eh ben ça va jouer sur la dernière journée de championnat. Mais bon, nous, on n'a pas un match facile à domicile, alors que Nice a un match relativement simple, je pense, à l'extérieur.
Ouais, on rappelle que Lille reste dans le sillage des Stéphanois, hein, puisqu'ils sont au soir de cette 36e journée, seulement à 2 points. Et ce sera cette équipe de Lille qu'on va rencontrer lors de la dernière journée. Alors voilà, on va passer au foot en Haute-Loire, hein, rapidement, Marco, puisque on a quelques résultats à vous communiquer.
Ouais, on n'a pas énormément de résultats puisqu'on enregistre un peu tôt. Donc page Haute-Loire.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Tout de suite, voici la page Haute-Loire.
En CFA, le Puy recevait Drancy et le Puy l'a emporté 1-0. But inscrit en première mi-temps, il y a eu très peu d'occasions Ponote au cours de ce match, mais il a suffi d'une seule pour remporter les 4 points de la victoire. C'est plutôt de bon augure pour la fin de championnat, hein, qui est aussi haletante qu'en Ligue 1. Il reste donc 4 journées où les Ponots ont encore des chances pour se maintenir dans ce championnat de foot amateur. En division d'honneur, Polignac se déplaçait à Volvic et Polignac ramène le nul 1-0 entre Volvic et Polignac. Voilà.
J'ai un petit mot à dire sur la Coupe de la Haute-Loire puisque le tirage a été fait et ce sera des rencontres de demi-finale qui auront lieu le samedi 21 mai. Alors, il reste donc deux équipes, on va dire, surprises dans cette compétition. C'est Issingeo et Grazac. Ils n'ont pas eu la chance de se rencontrer puisque Issingeo, l'Entente Suc et Lignon recevra Espaly tandis que Grazac L'Apt recevra Shadrach. Évidemment, Espaly et Shadrach sont favoris pour la finale.
D'accord. Page Haute-Loire terminée, hein, puisqu'on n'a pas tous les résultats. On s'en excuse. Vous êtes dans l'émission Coup de tête, l'émission Rock'n'Foot, qui analyse et décortique l'actualité des Verts. On va passer maintenant un troisième titre musical. Qui annonce en fin de compte que le contexte un petit peu compliqué de ces deux journées de championnat qui nous restent. Donc j'ai trouvé le titre de Catherine qui sort un nouvel album et le titre, c'est compliqué.
Tout rapport humain est compliqué. Même avec moi-même, j'ai des problèmes. Alors comment voulez-vous qu'on n'ait pas de problèmes? Si avec nous-mêmes on a déjà des problèmes, ces problèmes ne sont jamais les mêmes. Au cours d'une journée, on n'est pas pareil. Alors imagine 8 milliards d'êtres humains. Imagine tous ces rapports humains. Et dire qu'on était une goutte de sperme. Et dire qu'on était une goutte de sperme. Ça fait réfléchir, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, ça fait réfléchir. Regardez-moi ce groupe de rollers qui mobilise le boulevard Pasteur. Pourquoi simulent-ils le bonheur? C'est parce qu'ils n'ont ni perdant ni vainqueur. Une armée sans joie, voilà ce que je vois. Fuck you, fuck you, fuck you! Tout, je vois tout, tout. Tout rapport humain est compliqué, même avec moi-même j'ai des problèmes. Et dire qu'on était une goutte de sperme, plus fort que les autres gouttes de sperme. Et dire qu'on était une goutte de sperme, plus fort que les autres gouttes de sperme.
Voilà, c'était Catherine avec ce titre compliqué. Oui, ça risque d'être compliqué avec ce déplacement sur la Côte d'Azur. La semaine prochaine, hein, ça sera samedi à 21h, hein, c'est ça ?
Ouais, c'est multiplex, donc tous les matchs ont lieu en même temps. Alors attention, hein, c'est le seul qui ne sera pas sur beIN. Il sera exclusivement sur Canal, j'ai vu ça ouais, dans la répartition des matchs. Canal Plus décalé notamment.
Donc ça risque d'être vraiment compliqué. Non, si, mais si. Sans Perrin, sans Bayal, avec une équipe de Nice qui est joueuse, qui va jouer, qui va tout tenter pour passer devant nous, à deux journées de la fin, ouais, on s'est mis dans une situation relativement complexe. J'ai toujours mal digéré la partie de samedi, hein, vous avez compris, cher auditeur, avec ce match nul 0-0 et face au TFC, mais vraiment nul.
On va passer à notre célèbre rubrique que le monde entier nous envie, Marco.
Bien sûr.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de cœur.
Donc oui, les coups de cœur, les coups de tête. Donc on commence par les coups de cœur. Vous en avez ?
Oui.
J'espère. Eric ?
Bah, coup de cœur, on en a parlé au début de l'émission, avec le magnifique engouement qui est autour des Verts, qu'on a pu entrevoir ce mercredi à l'Hôtel de Ville, en espérant y retourner en fin de saison pour fêter une belle qualification européenne. Pas forcément pour l'Europa League, mais aussi peut-être pour la Coupe aux Grandes Oreilles. Et puis un coup de cœur concernant les déclarations cette semaine de Pascal Duprat, qui fait du très bon boulot depuis qu'il a pris le TFC, hein, il a métamorphosé cette équipe qui était plutôt moribonde. Donc il a déclaré « Les supporters des Verts sont vraiment des supporters dans toute la splendeur du terme, de vrais supporters, il y a une vraie ferveur. Ce club de toute façon est mythique. J'ai suivi l'épopée au même titre que l'avènement de l'Ajax. J'étais devant ma télé, j'étais enthousiaste à l'idée de regarder la télé avec mes parents et de supporter les Verts. » Donc des déclarations qui ne sont pas sans rappeler celles de l'ex-entraîneur Bastier Ghislain Printemps et qui font toujours plaisir.
Exactement. De mon côté, c'est la banderole des Magic fans. Je ne sais pas si vous avez vu, ils ont fait une banderole pour.
Ils ont fait plusieurs.
Ils ont fait plusieurs, mais celle qui m'a bien plu, mais bon, ça, voilà, il a fallu quand même que je recherche un petit peu. C'est celle sur les morts, les 96 morts de
Dillsborough.
27 ans après, en fait, la justice anglaise a rejugé cette histoire et en fait a bien montré que c'était la police. La police a été reconnue responsable des 96 morts de cette bousculade dans un stade, voilà, le stade d'Hillsborough. Et voilà, ça m'a bien plu, c'est le cas de. C'est bien à souligner, ça met du temps en tout cas. Hein, et ça, c'est pas mal à aller de voir ça à l'époque où on vit.
Ok, moi j'ai un seul coup de cœur, c'est Ruffier, qui était exceptionnel, on l'a dit au cours de l'émission, mais là il a bluffé tout le monde et chapeau à lui.
Alors là, on s'associe à 100% avec toi, Marco.
Allez.
Vous écoutez l'émission Coup de tête. Voici les coups de tête.
Coup de tête, je vais commencer, si vous voulez bien, cher acolyte. J'ai pas du tout aimé Jaffredo, et oui, je l'avais même annoncé à Olivier, bien avant, lorsque j'ai appris que Jaffredo arbitrait cette rencontre de samedi, et bah, comme je l'avais prévu, il a été minable. Pour moi, c'est vraiment minable, c'est vraiment un poison pour le football, ce genre d'arbitre. Ce qui illustre le mieux, je pense, son incompétence, c'est ça arrive au bout de 10 minutes de jeu, suite à... Il siffle une faute pour les Verts, alors que les Verts avaient le ballon. et il siffle à l'envers, il siffle tout, il est pas bon, il aime pas les verts, moi non plus, et les supporters stéphanois le rendent bien parce que il est pas bon du tout. Tout à l'heure tu parlais de l'entraîneur d'Evian, lui il a fait des louanges suite à l'arbitrage de monsieur Jaffredo, et ben moi jamais je ferai de louanges de monsieur Jaffredo tellement il est vraiment pas bon, et c'est pour moi c'est la hantise du football, et sachant que lui il va toucher le double de salaire de l'année prochaine, ça me rend malade. Voilà, j'ai pas aimé l'hélicoptère avant la rencontre. Je me suis demandé si c'était pour la rencontre entre Saint-Étienne et Toulouse, mais il faut croire que oui. Et alors que les supporters toulousains étaient 40, et je trouve ça aussi un petit peu disproportionné. J'imagine au mois de juin avec la horde d'anglais qui va venir ou de slovaques ou quoi que ce soit, comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont sortir les sous-marins, les porte-avions, voire les mirages pour des supporters? Non mais 40 supporters toulousains sortir l'hélicoptère, j'ai pas compris non plus l'absence de Cornier. J'ai pas du tout aimé Malcuit, j'ai pas compris le coup franc qui a été tiré par Amouma alors que normalement c'est Esric depuis le début de l'année qui le tire, et j'ai pas aimé aussi le premier carton rouge de Perrin. Voilà. À vous, messieurs.
Eric.
Ouais, le bilan de Jaffredo, tu en parlais, c'est 4 victoires, 8 nuls et 11 défaites, hein, Saint-Etienne, quand il arbitrait les Verts. Donc, effectivement.
Ah non, mais.
Monsieur Jaffredo qui va passer professionnel l'an prochain. Donc, moi, un coup de tête, c'est une nouvelle polémique concernant Roland Romeyer, dont on a parlé la semaine dernière. Roland Romeyer qui était invité dans les locaux de la Tribune de Progrès. On vous avait passé un large extrait dans la dernière émission pour passer un moment donc, en compagnie de lecteurs. Et puis, donc, il y a une polémique qui, pour moi, n'avait pas lieu d'être, qui est née d'une réponse qu'il a apportée à une question qui a été posée concernant le milieu de terrain, donc le fameux milieu de terrain vieillissant. Donc, Roland Romeyer s'est senti ensuite obligé de s'entretenir avec les trois joueurs concernés, donc Renaud Coad, Fabien Lemoine et Jérémy Clément, pour leur dire en tête à tête, leur expliquer de vive voix ce qu'il avait réellement dit les concernant. Et puis ses propos ont quand même fortement déplu à l'un des trois joueurs du milieu de terrain, en l'occurrence Fabien Lemoine, donc qui a fait des déclarations cette semaine et qui a même évoqué un possible retour au Stade Rennais. Donc voilà ce qu'a déclaré Fabien Lemoine. Si j'ai le temps, moi je vais le résumer brièvement. Donc il dit « Avec Jérémy et Renaud, on a rencontré le président. On était trois à être visés par sa déclaration. Cela n'arrive pas forcément au bon moment puisqu'il reste trois matchs, mais c'est bien d'en discuter. J'aurais préféré que cela se passe en interne et qu'on en discute tous les deux si le président avait des choses à dire. Je suis lucide sur ma saison. On est tous conscients que le milieu de terrain était moins bon que les années précédentes. Mais est-ce que c'est seulement le milieu de terrain? C'est aussi une question d'équilibre d'équipe. Est-ce que c'est seulement purement footballistique? Est-ce que je suis fracassé? Je n'ai plus le niveau et je suis fini pour le football. Je n'ai pas eu de préparation pour la deuxième année consécutive. À un moment donné, j'ai trouvé que je revenais bien et je me suis blessé à nouveau. Dans ma vie, j'ai aussi connu des passages compliqués. C'est difficile de faire la part des choses. Ce qui se passe au boulot rejaillit dans ma vie personnelle et vice-versa. Mais je ne me cache pas derrière ça. Je me suis toujours battu pour l'équipe. Il y a 2 ans, j'ai failli retourner à Rennes. Parfois, le train passe une fois, pas deux. Je ne cache pas que ça me ferait plaisir de retourner là-bas. J'ai été très bien accueilli à Saint-Étienne. J'ai passé de super moments. Ma carrière est montée en intensité, mais là-haut, ça me manque. Même si je suis un peu vieillissant, entre guillemets, je n'ai que 29 ans. Il me reste encore quelques années. J'ai 2 ans de contrat, on verra. Il y a d'abord une belle fin de saison à vivre. Après, il sera intéressant de faire le point pendant les vacances. Donc voilà, tout est dit. On ressent une profonde amertume au travers de ses propos. Fabien Lemoine a disputé face à Lorient son 200e match sous le maillot vert. Un maillot qu'il a toujours mouillé et honoré. Il fait partie des cadres qui ont permis au club de finir 3 fois dans les 5 premiers et de gagner un titre. Il ne faut donc pas avoir la mémoire courte.
Écoutez, l'émission se termine. On va passer à l'agenda. L'agenda, il est simple. Hein. La rencontre très importante, un match à 6 points. C'est samedi prochain avec ce déplacement à Nice, match à 21h. Voilà, sur ce, chers auditeurs, bonne semaine à vous et puis allez les Verts!
Bonne semaine, allez les Verts!
À très bientôt, allez les Verts!